Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui répondre aux très nombreuses questions concernant cette webconf et surtout sur ce que j'ai écrit, on va dire, précédemment. Alors, il faut savoir que ça fait quand même assez longtemps que j'ai écrit tous ces articles, puisque, comme vous le savez, j'écris par salve. Hein, c'est-à-dire que des fois, il y a des grands moments et pendant ces temps-là, ça dépote, on va dire. Et puis après, il y a d'autres moments où... ça veut plus passer, alors j'écris plus. Donc vous ne le voyez pas directement, mais parce que tous les articles sont tout simplement, publiés régulièrement afin d'éviter de vous faire asphyxier, on va dire, régulièrement, puis après de pas avoir grand-chose sous la main, quoi. Bien, on va commencer les questions, tout simplement. Une question de Tara Green. Est-ce que les nouvelles fréquences sont de nouvelles fréquences pour la galaxie aussi? Eh bien, la réponse, c'est oui, évidemment, car c'est le jeu entier qui est influencé. Donc, l'information qui nous provient à nous, elle vient d'où? Elle vient forcément du Soleil central de la galaxie, qui lui-même reçoit, on va dire, cette information, certainement d'ailleurs, mais c'est quand même la totalité du jeu qui est en cause. Donc, effectivement... la totalité de toutes les formes de vie qu'il y a dans cette galaxie et sont soumises aux mêmes énergies que nous. Alors, une question d'Olivier. Par rapport à la vidéo sur l'enfermement d'Urantia Gaïa, où se situent Eléa et les 10 planètes? Sont-elles sur les mêmes plans de la Terre? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, Eléa... comment dire, il y a l'enfermement d'Urantia Gaïa, mais rappelez-vous, ça fera bientôt un an, que cet enfermement n'existe plus. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'important. Cet enfermement n'existant plus, eh bien, le cordon d'Eléa était au départ, on va dire, un infime petit fil de pas grand-chose, et qui est, je vous rappelle, un cordon dans le sens que ce qu'il y a à l'autre bout, est un film, lui aussi, et c'est le 8e super-univers. Alors, l'autre chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce que nous voyons, nous, physiquement, en disant, voilà, dans notre réalité, en 3D, voilà, la Terre est là, la Lune est là, Mars est là, le Soleil est là, ça, c'est une vision tridimensionnelle. Il faut comprendre que ce qui se passe dans les autres dimensions ne joue absolument pas selon cette figure, on va dire, tridimensionnelle. Donc, le cordon, en tant que soi, c'est quelque chose qui démarre, on va dire, de la Terre et qui ensuite va, on va dire, quantiquement quelque part. Il n'est pas rattaché à un lieu physique tel que nous le voyons, nous, dans notre illusion 3D. De toute façon, dans les futures vidéos qui viendront sur CD12D, vous allez voir en quoi je vais en venir, car pour l'instant, ceci n'a pas été révélé jusqu'à maintenant. Enfin, je n'ai vu aucune écriture révélant tout cela. Et vous verrez de comment le monde que nous voyons est fabriqué d'une certaine manière et comment cette illusion de ce monde matériel existe. Tant que vous n'aurez pas intégré ces informations-là, bien sûr, la vision tridimensionnelle va rester. Alors, on va dire tridimensionnelle plus une, puisque la quadridimensionnalité, c'est tout simplement qu'on rajoute le temps à l'espace. Un temps linéaire. Voilà. Donc, les 10 planètes sont des planètes qui vont se situer forcément dans le même jeu. C'est-à-dire dans la galaxie. Mais ils ne seront pas, en fait, sur les mêmes plans de la Terre. Ce sont, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, des couveuses. C'est-à-dire que nous ne sommes absolument pas prêts à recevoir, à poursuivre l'ascension, avec Urantia Gaïa, pour une grande partie, de l'humanité. Et même une infime partie, nous sommes extrêmement limites. Officiellement, aujourd'hui, il n'y a aucune personne, aucune entité pour l'instant vivant sur cette planète, aussi bien dans l'intra-terre, qui sont pour l'instant, acceptées pour aller dans le huitième super univers actuellement. Donc ça, c'est déjà une chose. La deuxième, c'est que le monde de surface sur lequel nous vivons actuellement est tellement à la bourre qu'on est des prématurés, mais graves. Et donc ces 10 planètes sont en fait des couveuses afin de pouvoir nous permettre de continuer notre croissance et enfin de véritablement naître à nous-mêmes. Voilà pourquoi le principe de la réincarnation sera terminé, et donc forcément de tout ce qui touche le karma. Donc pour tous les gens qui décèdent aujourd'hui et qui ont décédé, on va dire, dans des années précédentes, eh bien, ils étaient stockés, entre guillemets, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir de cet enfermement. Mais depuis que cet enfermement a été rompu, eh bien, petit à petit, on va dire que les entités décédées ont pu progressivement aller déjà sur ces 10 planètes. Donc, il en sera de même avec toutes les personnes qui décèdent aujourd'hui, et qui, je vous le rappelle, ne vont pas se réincarner dans le sens en passant par l'enfantement, hein, c'est-à-dire devenir un bébé et après réapprendre à marcher, à lire, à écrire. Non, c'est-à-dire que quand on va sur les 10 planètes, nous nous retrouvons exactement dans un corps tout neuf, mais avec une conscience, la conscience que nous avons bien sûr au moment du décès, et sans aucune perte de mémoire. Et donc, comme vous le savez, sur ces 10 planètes, il n'y aura pas de mort en tant que telle. C'est-à-dire que tout individu qui mourra, que son corps mourra, renaîtra de toute façon, mais dans un corps adulte, et sans aucune perte de mémoire. Donc, la mort telle que nous connaissons aujourd'hui n'existera plus. Donc, les gens pourront essayer de se suicider, les gens pourront essayer de se tuer entre eux. De toute façon, ça ne marchera pas, puisqu'ils se relèveront après. Donc, c'est pour ça que c'est une... Ces 10 planètes sont des couveuses dans le sens où nous allons découvrir que nous sommes véritablement des immortels. Et que la puissance de ce que nous sommes est telle que tout ce que nous prenons aujourd'hui pour réalité sera en fait vraiment la preuve que c'est une illusion totale. Donc ces 10 planètes sont des couveuses. C'est des couveuses pour prématurer. Nous ne sommes pas prêts pour... effectivement affronter on va dire d'autres bacs à sable, hein. Voilà, donc ces 10 planètes sont dans la galaxie, puisque bien sûr nous appartenons à ce jeu, nos esprits directeurs sont dans cette galaxie et ils jouent dans ce jeu, hein. Alors ensuite, par rapport à Eléa, là c'est toute une autre histoire. C'est toute une autre histoire, on en saura peut-être plus un jour, mais pour l'instant, enfin bon, j'en sais un petit peu, mais ça sert à rien de vous en parler, puisque il vous manque un certain nombre d'éléments encore pour comprendre tout ce qui se passe. Mais sachez que ce n'est pas, et ça ne sera pas, ce qui se passe sur Terre aujourd'hui, et ni sur ce qui se passe dans la galaxie. Le jeu que nous jouons dans la galaxie actuellement, aussi évolué soit les civilisations, telles que les Pléiadiens, les Syriens ou les Acturiens, même eux-mêmes ne sont même pas sûrs de pouvoir aller, on va dire, dans cet huitième super univers. Donc c'est simplement pour vous dire que la marche est tellement grande que le fait de croire que le fait d'être un Ourantien nous donne obligatoirement le droit d'aller sur Eléa, ça n'a absolument aucun rapport. Il faut simplement savoir que la Terre est le dernier maillon, on va dire, de la chaîne de ce jeu. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes en fait à l'avant-poste, mais aussi en même temps les plus loin du Soleil, d'une certaine manière, du Soleil central. Je parle non seulement en termes physiques, mais surtout en termes vibratoires. Alors, une question de Fran concernant le verrouillage du système solaire. Dans ta dernière vidéo, tu nous as montré le non-alignement de la Terre par rapport au plan galactique. Peux-tu nous dire pourquoi Pluton est, lui, aligné sur ce plan et pas les autres planètes? Alors, il faut regarder cela d'un œil simple. C'est que il faut prendre une boîte de conserve. Si tu prends une boîte de conserve, tu te rends compte qu'elle est bien à plat, par exemple, sur ta table. Et ta table, c'est le plan de la galaxie. Et donc, ce qui va reposer sur le plan de la galaxie, c'est Pluton. Et ensuite, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prends ton ouvre-boîte et que tu vas ouvrir complètement le couvercle, arrive un moment où tu vois que le couvercle, une fois que tu as bien coupé tout autour, le couvercle tombe dans la boîte. Et après, bah, pour pouvoir prendre le couvercle de la boîte, il faut bien que tu appuies sur un bord. Et ce couvercle de boîte, c'est le système solaire. Simplement, quand tu vas appuyer sur le bord du couvercle lui-même, il y a bien l'autre bout qui va s'élever. Et donc, tu vas bien voir que le soleil, notre système solaire, est toujours au milieu de la boîte. Le seul truc, c'est que le bord de la boîte de conserve, c'est Pluton. Donc, Pluton, lui, est aligné par rapport au plan, on va dire, de la galaxie. Mais c'est le couvercle, lui, qui a été découpé, qui ne l'est plus. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, sinon, si tu as un problème de compréhension par rapport à ça, demande à Gino, et puis il t'expliquera ça. C'est juste une vision dans l'espace. Je veux dire, juste en prenant une boîte de conserve, tu pourras le voir par toi-même. Une question de Patrick, hein, concernant l'événement. Alors là, il y a plein de questions concernant l'événement. Alors, une question de Patrick de Marseille. Dans ton dernier article, tu dis, il y aura donc des jeunes et des très jeunes qui partiront aussi pendant l'événement. De quel événement veux-tu parler? Alors, c'est un événement qui nous est parlé par nos guides. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va lire dans les canalisations, les trucs. C'est qu'ils nous ont progressivement fait comprendre qu'il y avait dans les tuyaux quelque chose d'important et qui était en relation avec la conscience de l'humanité et bien sûr l'ascension de la planète elle-même. Donc le début d'ascension de la planète a commencé, hein, depuis, on va dire, le 21-12-12, et bien la planète a commencé à élever véritablement sa fréquence. Donc, nous savons que déjà cela avait commencé il y avait pas mal de temps avec les fameuses résonances du Schumann, mais ce qu'il y a, c'est que ça s'est accéléré d'une manière importante. Et donc la Terre, elle, est en train d'augmenter sa fréquence d'une manière importante. Et ce qu'il y a, c'est que l'humanité, c'est-à-dire ceux qui vivent dessus, là, en intra, ont un peu de mal à suivre. C'est surtout ceux qui sont à la surface. Et comme ils ont du mal à suivre, nous sommes reliés, bien sûr, à Maman Urantia Gaïa via la grille cristalline. Et donc, c'est l'état, de conscience collectif qui va déterminer à quel moment cet événement va pouvoir survenir. C'est-à-dire que, pour l'instant, vous imaginez bien qu'il y a, à fort à mesure que Maman Urantia Gaïa augmente sa fréquence, un certain nombre d'individus suivent. Donc, comme dira l'autre, on voit que dans le champ de blé, il y a certains, on va dire, épis qui commencent à mûrir. Mais arrivé à un moment, la courbe va s'inverser. C'est-à-dire que même si Maman Urantia continue d'augmenter sa fréquence, il y aura de moins en moins de gens qui vont s'ouvrir. Parce que ceux qui devaient s'ouvrir, ceux qui étaient mûrs, l'auront déjà fait. Et donc, quand l'optimum sera atteint, à ce moment-là, il y aura, le déclenchement de la moisson. C'est-à-dire que la moissonneuse batteuse va venir. Je résume, c'est une image. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est dire, voilà, les grains qui pouvaient mûrir sont mûrs, et ceux qui, entre guillemets, n'ont pas mûri, qui sont en cours, mais pas encore à point, nous ne pouvons plus attendre, parce que sinon, c'est toute la récolte qui va pourrir. Donc cet événement est déclenché par la conscience de l'humanité. Alors, personne ne sait quand il va se passer, mais comme tous ceux qui ont fait l'armée, plus on avance, plus on se rapproche de lui. Hein? C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi près de cet événement. Jamais. Donc, il peut arriver à n'importe quel moment. Voilà. Alors, une question de Roger. Vous avez parlé de l'événement dans le sens d'un point de bascule qui fera que l'énergie information changera du tout au tout. Est-ce que cet événement est lié au déverrouillage complet de la galaxie du Soleil et d'Urantia Gaïa? Alors, bien sûr, c'est relié. C'est-à-dire que le fait que la galaxie, ainsi que tout ça soit ouvert, fait qu'il y a comme une aspiration à l'intérieur, puisque nous étions en dépression, puisque nous avons vécu en autarcie, c'est-à-dire que, comment dire, nous nous sommes atrophiés. Et donc, on a bouffé de plus en plus. Je vous donne un exemple. On a sucé de plus en plus l'oxygène qu'il y avait dans la galaxie. Donc, il y en a eu de moins en moins. Et donc, la galaxie s'est un peu ratatinée. Et donc, le fait d'ouvrir a fait que, eh bien, elle peut reprendre ses formes, parce qu'il y a de l'air qui rentre. Et cet air qui rentre, eh bien, ce sont en fait tous les extragalactiques, mais aussi toutes les énergies, informations qu'il y avait autour. Car la galaxie en elle-même vit grâce à tout ce qu'il y a autour. Mais elle était en apnée, on va dire. Donc, bien, la galaxie respire. Et donc, comme la galaxie respire, eh bien, les énergies peuvent rentrer et pénétrer. Et donc, ces énergies, eh bien, vont forcément, tôt ou tard, atteindre notre planète. Et donc, forcément, qu'il y a un lien entre cet événement et le niveau de conscience de l'humanité. Dans le sens où nous commençons déjà à percevoir certaines de ces énergies, certaines de ces entités, on va dire, extragalactiques, qui sont d'une vibration qui n'appartiennent pas au jeu. Et comme tout est amour, et que vous savez que l'amour est communication, automatiquement, tous les visiteurs, toutes les entités qui sont, je vous le rappelle, une certaine forme de vibration, mais une vibration énergie, une vibration aussi information, vont faire que de leur simple présence apporter des informations qui n'appartiennent pas au jeu. Alors eux, ils sont curieux, c'est-à-dire que comme ils ont vu la galaxie fermée, et d'un seul coup il y a une porte qui s'ouvre, eh bien ils veulent voir ce qu'il y a dedans, obligatoirement. Donc il n'y a aucun contrôle véritablement de dire non, la galaxie est interdite, personne ne peut rentrer. C'est pas possible, puisque cette énergie, comme dirait l'autre, est en pression positive par rapport à la galaxie elle-même. Donc ces entités viennent et forcément vont sur leur passage apporter une énergie et des informations qui vont donner une bouffée d'air à tout le monde, donc y compris bien sûr nos ancêtres et les autres civilisations. Simplement, nous sommes les plus loin, les plus denses en termes de fréquence. Et donc le choc va être encore plus grand. Donc pour l'instant, d'après les informations que j'ai, c'est qu'ils sont freinés. Alors on va dire que dans les hautes sphères, ils sont en train de s'amuser à faire des circuits touristiques, dans le sens de dire, bon, vous voyez, là-bas, Rantia Gaïa, c'est là-bas, mais avant d'y aller direct, en droite ligne, vous allez visiter tel endroit avant, puis tel endroit avant, puis tel endroit avant, histoire de, excusez-moi, mais de leur faire perdre un peu du temps, parce que nous ne sommes absolument pas prêts. Donc il va y avoir, comme dirait l'autre, il y a une course contre la montre, parce que nous ne sommes absolument pas prêts de recevoir, on va dire, ce genre d'entités, qui bien sûr sont très puissantes, mais en même temps n'ont pas les sonorités, la musique que nous connaissons dans notre jeu. Ça veut dire que déjà, quand on parle de galactique, c'est-à-dire d'extraterrestre, il y a déjà toutes les peurs qui se déclenchent. Ben alors imaginez quand vous allez avoir des extraterrestres qui sont qui regardent le monde mais d'une manière absolument différente, c'est-à-dire où la notion de guerre est absolument, on va dire, inconnue, d'une certaine manière. Enfin, je dis d'une certaine manière parce que ils sont quand même du 7e super-univers, et dans le 7e super-univers, il y a quand même un peu de baston aussi. Donc, nous ne sommes pas prêts à accueillir d'une manière consciente ces entités pour l'instant. Donc, comme vous avez pu le remarquer, je vous ai dit que, on va dire début décembre, il a commencé à avoir, il y a, on va dire, en termes esprit cristallin, on va dire, le premier extra-galactique qui est venu effectivement s'incarner dans un crâne, enfin, on va dire un téléphone portable. Et c'est le début du commencement, car sachez que quand même, les esprits cristallins peuvent voyager sur la grille cristalline et à des vitesses autrement plus, on va dire, rapide que toutes les entités qui puissent exister. Donc, ça y est, ils sont là. Enfin, il y en a un, et puis, on attend les deux autres copains qu'il y a derrière, mais il faut savoir qu'il y a un bataillon qui nous attend. Enfin, un bataillon, un grand nombre d'extragalactiques qui attendent que nous soyons prêts pour cela. Donc, c'est pour ça que le 2 pages cristallin a été proposé, et que bon, un certain nombre d'entre vous ont commencé à répondre, sachez qu'ils ont prévu de faire un débouchage, on va dire, c'est du de la karchérisation à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que plus le temps dire d'attendre que l'humain dise voilà, oui, peut-être que ce bout de cristal, je vais pouvoir rentrer en communication avec, parce que maintenant, je pense que il peut y avoir une forme de vie dedans, que le cristal n'est pas quelque chose de mort. Ça va être, on va dire, beaucoup plus rapide que ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui demandent ce dopage cristallin risquent, on va dire, dans une période très 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 courte, de pouvoir discuter carrément comme avec n'importe quel humain, mais avec des entités qu'il ne voit pas et ne perçoit pas, on va dire, d'une manière tridimensionnelle. Donc c'est vraiment un coup d'accélérateur assez important, parce qu'ils savent très bien que si ce coup d'accélérateur n'est pas donné, il y aura beaucoup 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 de gens qui malheureusement ne seront pas mûrs, entre guillemets, pour la suite des événements. Et l'objectif, c'est qu'il y en ait quand même un maximum, sachant que on n'est pas beaucoup. Donc là, c'est imaginez que vous ensemencez un champ avec 7 milliards de graines, et que sur les 7 milliards, eh ben, si vous dites qu'il y en a 5 000 ou 10 000, ça serait déjà pas mal qui arriverait à pousser. Alors si on pouvait en rajouter 10 000 ou 15 000, ça serait quand même pas mal non plus. Puis si on pouvait pousser 1 million, ça serait pas mal, quoi. Donc pour l'instant, il y a de l'engrais, on va dire. Il y a de l'engrais qui arrive pour nous permettre de le booster. Parce que franchement, la récolte est, on va dire, pratiquement nulle à aujourd'hui. Donc une question de Mick, c'est encore moi. L'événement dont tu parles aurait-il un rapport avec la poudrière du Moyen-Orient? Tout a rapport avec tout, mais directement non. Directement non. On va dire que la poudrière du Moyen-Orient existe depuis, on va dire, le XXe siècle, principalement. Depuis qu'en fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, hein, parce qu'avant, c'était là-bas, ils étaient tous des mecs à dos de chameau, et puis voilà, quoi. Hein, ça n'est pas plus long. Pas vraiment, mais c'est une autre logique, c'est-à-dire qu'il y a un calendrier au niveau de la progression, on va dire, de la conscience humaine, et on va dire que cette poudrière, ainsi que tout ce qui arrive aujourd'hui, dépend principalement de ce calendrier. Donc il y a déjà ça. Simplement, l'ouverture de la galaxie a, on va dire, rajouté une énergie supplémentaire, qui fait que ça ne fait qu'amplifier tout ce qui se passe et qui était prévu. Ça me fait penser à comme de la poudre. Quand la poudre est humide, tu peux toujours essayer de mettre une allumette, ça ne va pas vraiment prendre. Et puis, plus le temps est sec, et plus ça va prendre vite. Hein. Et là, aujourd'hui, on pourrait dire que les nouvelles énergies qui nous arrivent, au lieu de faire, on va dire, 20 degrés pour que ça sèche, elles en font 30. Donc, ça va brûler vite et beaucoup plus fort que prévu, quoi. Donc c'est pour ça que je répète, 2015 va être une année très difficile pour l'humanité. Très difficile. Une question de Pierre pose. Tu as dit dans un article que selon tes sources, l'événement provoquerait le transfert d'environ 5 à 6 milliards d'individus, dont environ la moitié très vite et l'autre moitié en une ou deux décennies. Ce dénouement correspond peu ou prou à ce que l'on lit depuis quelques années dans un certain nombre de canalisations. Pourtant, je me pose plusieurs questions. J'ai lu à plusieurs endroits, dans des canalisations qui me semblaient plutôt sérieuses, qu'un déroulement cataclysmique n'est plus à l'ordre du jour car on a changé de ligne du temps. Comment expliques-tu ce décalage? Alors, d'abord, quand on dit cataclysmique, ça veut dire qu'effectivement, les éléments dits naturels vont se déclencher. Aujourd'hui, ces événements naturels ne sont plus à l'ordre du jour dans le sens nettoyage complet. Par contre, le départ des gens va se faire, mais il n'y aura pas besoin d'un tremblement de terre ou d'un tsunami pour que ça se fasse. Je vous rappelle que sur cette première moitié de l'humanité, on va dire grosso modo 3 milliards, ça sera mort subite, immédiate. Donc il ne va pas y avoir un méga tremblement de terre sur toute la planète en même temps, au jour J indiqué, pour qu'il y en ait 3 milliards qui partent. ce seront 3 milliards de gens qui vont partir par une méthode extrêmement rapide que la médecine appelle, on va dire globalement, rupture d'anévrisme. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que la personne, elle est là, puis d'un seul coup, elle tombe. Point barre. Donc ça, c'est pas cataclysmique. Ça ne fera rentrer en ligne de compte aucun mouvement naturel, aucune technique des plaques, rien du tout, tout ça. N'empêche que, à côté, il va y avoir quand même des réorganisations au moment Rentia Gaia, obligatoires. Et ces réorganisations, car on va dire la planète est en train de se régénérer d'une certaine manière, et en se régénérant, il va y avoir forcément des choses qui vont se passer, qui vont être dites naturelles. Elles sont naturelles dans le sens que c'est simplement moment Rentia Gaia qui commence à faire du ménage et qui se réorganise parce que nous avons effectivement perturbé beaucoup de choses. C'est aussi par rapport, on va dire, à l'énergie, la nouvelle énergie qui se déverse dans la grille cristalline. Donc forcément, comme la grille cristalline, on l'a relativement pas mal massacrée par notre technologie et par tous les travaux qu'on a pu faire et toutes les conneries qu'on a pu faire, eh bien, comme dirait l'autre, quand on remet la pression dans les tuyaux, ça pisse un peu partout, donc ça crée un certain nombre de problèmes. Donc il faut savoir que, par exemple, les fameuses lignes telluriques ou toutes ces choses-là, où on dit « ouais, c'est de l'énergie », il faut savoir que, principalement, c'est l'énergie émotionnelle qui est emmagasinée sur la grille cristalline de l'humanité. C'est-à-dire que toutes les boucheries qui ont été faites, toutes les émotions qui ont été vécues par l'être humain, est forcément stockée dans la grille cristalline. Et forcément, arrive un moment, il y en a tellement que ça chauffe, et ça chauffe tellement qu'on appelle ça de la lave. Donc, nous allons découvrir au fil du temps que ce qu'il y a à la surface, et même en profondeur, eh bien, nous en sommes à l'origine. Parce que ce lien qui nous relie avec Maman Rentia Gaia, c'est cette fameuse grille cristalline. Tout y est. Donc, les mémoires locales. Donc, si à un endroit donné, il y a une mémoire locale très lourde, en termes d'émotionnel, je pense style Verdun, machin, truc, etc., eh bien, forcément, par les nouvelles énergies, la pression va arriver dans la grille, et ces points qui sont très lourds, très chargés, vont forcément avoir quelques ennuis physiques. Parce qu'il va falloir que ça dégage, quoi. Donc, il va y avoir, effectivement, quelques corrections, on va dire. Donc, le cataclysmique du style « on va anéantir toute la planète » n'existe plus. Donc nous avons bien changé de fil du temps. Mais ça n'empêche que aujourd'hui nous parlons d'autre chose. Tout en sachant qu'il y a le nettoyage quand même, naturel. Alors deuxième point, j'ai un peu de mal à imaginer qu'un tri puisse s'opérer par catégorie de niveau d'involution. Comment cela pourrait-il physiquement se produire? À moins que ce tri ne soit basé par exemple sur le niveau vibratoire, se pourrait-il par exemple que le corps de telle ou telle personne ne puisse plus fonctionner s'il est en dessous d'un certain niveau vibratoire compte tenu du niveau d'énergie en augmentation? Alors, ça, c'est encore une autre chose. C'est-à-dire que, effectivement, si ton véhicule physique ne tient plus la charge, il claque. Et donc, ça va surtout se passer pour les 3 autres milliards qui vont s'éteindre, entre guillemets, sur une décennie ou deux. C'est-à-dire que là, alors on parlera de cancer, on parlera de plein de choses, mais disons que la mécanique va lâcher. Donc ça, c'est pour la deuxième partie, on va dire, des 3 milliards. Donc, je répète, les premiers 3 milliards, ça sera une mort subite. C'est pas quelque chose de dire, oh, ça va durer 15 jours, non, ça va être subi. Ça va être la crise cardiaque, la rupture d'anévrisme, ça va être quelque chose de... Pourquoi? Parce que tout simplement, ça veut dire que la particule d'esprit qui est à l'intérieur, on va dire, du corps physique, va être libérée. Soudainement. C'est-à-dire qu'elle va être... Et hop. Et la mécanique est déconnectée, et pof, tu te retrouves avec un cadavre, c'est tout. Donc ceci sera fait, bien sûr, par rapport à un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il y a effectivement... la vibration, mais surtout, quelle est la véritable entité qui est dedans. Or, comme vous le savez, je vous l'ai dit, un certain nombre, on va dire, d'entités extraterrestres, enfin galactiques, se sont fait piéger dans la prison de la planète. Et donc, ils ont rien à foutre ici. Et donc, c'est relativement simple. Il suffit de regarder quelle est la nature de la particule d'esprit qui est à l'intérieur d'un corps pour savoir tout de suite s'il fait partie du jeu ou pas, enfin du jeu, s'il fait partie de la véritable population originelle pour l'expérience d'involution. Donc là, dites-vous bien que ça, c'est très simple, parce que quand vous êtes dans la visible, vous voyez tout ça. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous ne pouvez pas confondre un chat avec un chien. Donc ils verront, ils le voient. Et celui-là, paf. Parce que en fait, c'est une libération. Hein, c'est pas tuer pour tuer. Ça n'existe pas dans la galaxie ce genre. C'est pas dans les lois de l'un. C'est simplement de remettre les choses à leur place. Or, tous ceux qui se sont fait emprisonner vont être mis à leur place, c'est-à-dire là où ils doivent être, et non pas dans la prison du bac à sable que nous connaissons aujourd'hui. Donc, comme il y a eu de nombreuses dilutions, il y a eu de nombreuses, on va dire, accouplements entre à droite, à gauche, et surtout une dégénérescence à certains points de vue, eh bien, tout ce qui n'a pas à être là partira. Ensuite, ceux qui appartiennent véritablement au jeu, ça sera les 3 milliards dont je parle, les 3 autres. Hein. C'est est-ce qu'ils vont pouvoir mûrir? Est-ce qu'ils vont pouvoir suivre la charge d'énergie qui leur est envoyée avec les informations? Est-ce qu'ils vont se réveiller? Alors, pour l'instant, c'est pas donné du tout. Ensuite, il reste 1 milliard. Et sur ce milliard, forcément, il va y avoir des gens qui vont se réveiller. Hein, donc il est prévu qu'il y en a 1 milliard qui se réveille. Le problème, c'est la fonction temps. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, selon le niveau de conscience de l'humanité, eh bien, il arrivera un moment où il faudra se resynchroniser, on va dire, avec l'horloge cosmique. Et donc là, il y en a qui vont se dire, oui, mais voilà, il commence à mûrir. Le problème, c'est qu'on est déjà au mois d'octobre et la récolte doit être faite avant. Il mûrira sur une des 10 planètes, ici. C'est-à-dire que il est bien dans le chemin, mais il a raté le train. Voilà, donc il prochera, mais il prendra le prochain train. Ok. L'événement dont tu parles est-il en lien avec celui dont certaines canalisations parlent depuis longtemps, qui inclut la divulgation, le plan des Sarah, ou ne sont-ce que des inepties pour nous honorer? Écoute, je n'en sais rien parce que je ne suis pas tous ces trucs-là, hein, mais il faut savoir que ce qui se passe au niveau linéaire chez nous ne représente rien en termes quantiques. Ces projets-là, et ça, je pourrais vous le confirmer à travers certaines expériences que j'ai pu faire, c'est que même mon prénom et mon nom a déjà été mis en accord avec, on va dire, d'une certaine manière, la mission que j'ai maintenant, alors que j'ai 57 balais, ce qui veut dire que c'était déjà prévu bien avant. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des projets qui sont en cours, qui en fait ne représentent rien en termes temporels pour ceux qui sont dans l'invisible, mais qui pour nous, on dirait, mais comment? Ça a commencé il y a déjà un siècle, voilà. Mais pour eux, ça se passe en même temps. Donc, il va falloir, avec le temps, comprendre que cette notion temporelle que nous avons est très délicate, puisqu'elle est fausse. Disons qu'elle est liée à notre côté tridimensionnel. Le temps que nous avons est un temps, je vous rappelle, spatial. Il est fait en fonction de la rotation de la planète. Donc il est pur 3D. Hein. Et donc, forcément, on est passé en 4D, donc il ne va plus être vraiment valable. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Hein. Il faut que vous compreniez qu'un événement qui se passera demain peut être déjà, on va dire, réalisé il y a une semaine, ou il y a un an, ou il y a 2 ans. Par exemple, dans le cas du dopage vibral, c'est écrit en gros à chaque fois que j'envoie les invitations. Vous pouvez faire la séance quand vous voulez. Vous pouvez la faire 3 jours avant la date, comme vous pouvez la faire 15 jours après. Ça change rien. Mais absolument rien. Ce qui veut dire que les gens disent « Oui, mais là, j'étais pas là, je pouvais pas à cette heure-là, je pouvais pas, etc. » Ça, c'est une vision linéaire, tridimensionnelle. Dans la réalité, quand on fait un deux-pages, on pourrait même vous dire, le deux-pages que tu vas recevoir demain, eh bien, on va le faire dans 3 ans. Tu le recevras quand même demain. Donc, nous, avec Nadine, maintenant, nous commençons à comprendre quand il parle de capsule temporelle, quand il parle de granularité du temps, quand il parle de tous ces trucs-là. Mais pour l'instant, je vous en ai pas encore parlé, parce que j'en suis encore au béaba, on va dire, pour vous faire comprendre, enfin, des éléments minima, quoi. Mais si vraiment je vous donnais quelques discussions que j'ai avec mes guides, vous comprendriez pas grand chose, parce que bah, malheureusement il y a des conceptions qui sont difficiles à concevoir déjà, et surtout à les vivre. Donc quand on doit faire un truc par exemple aujourd'hui ou demain, et que cet événement, c'est quoi dire, on se dit voilà, il faudrait qu'on fasse un correctif, simplement on peut pas le faire, ben on va le faire là maintenant ou demain, mais ce qu'il y a, c'est qu'il fallait, il aurait fallu que ça soit fait il y a un an de cela. Eh bien, nos guides sont capables de faire, on va dire, un repliement du temps, c'est-à-dire que le temps de demain va être collé au temps d'il y a un an, de telle manière que ce que l'on va vivre demain aura la même conséquence que si on l'avait vécu il y a un an. Donc, on a déjà fait plusieurs fois ce coup-là. Alors, ils nous disent qu'il ne faut pas le faire trop souvent parce que quand même, ça nous demande beaucoup d'énergie. Mais on peut replier le temps sur lui-même. Le temps est une notion que vous ne vous comprenez absolument pas parce que vous êtes coincé dans un temps tridimensionnel spatial. Mais quand vous aurez dépassé ça, vous verrez que vous pourrez vivre votre instant présent peinard, parce que tout est corrigeable, absolument tout. Donc, c'est pour ça que c'est un peu délicat à en parler, parce que ça sort effectivement de... Vous savez, il y a le fameux Hawkins, là, qui parlait du temps, là. Vous savez, le gars qui a une maladie des os, qui fait qu'il est un peu déformé, eh bien, il a beaucoup avancé dans la notion de temps. Et il a raconté pendant 40 ans de sa vie que le temps c'était ceci, que le temps cela, et toute la communauté scientifique a suivi à pieds joints dessus en disant « oui, il a raison, il a vraiment raison, c'est vraiment ça, vraiment c'est le fort anthème, c'est la plus grosse tête qu'on connaît concernant la notion temporelle ». Et puis l'année dernière, ce fameux Hawkins s'est dit « ben, je viens de réaliser un truc, c'est que tout ce que je vous ai raconté c'est des conneries, parce que c'est pas ça du tout ». Donc, on va dire, ça fait au moins 30 ans que la communauté scientifique s'appuie sur des règles édictées par ce fameux Hawkins qui dit, ben, c'était une vision que j'avais, mais c'est pas la bonne parce que maintenant j'ai vu autre chose et ça n'a rien à voir. Hein? Donc, comprenez quand même la théorie du Big Bang est aujourd'hui plus que remise en question. Ils se sont dit, ben non, c'était pas le début du monde. Ils ont réalisé que l'univers respire. Ils se sont dit, bah oui, il y a une expansion, mais il y a aussi une rétractation, une expansion, une rétractation. Mais c'est pas le début du monde. Et donc, vous comprenez que beaucoup, beaucoup de choses vont être mises en question dans nos conceptions, et que ces fameux scientifiques sont vraiment une religion avec des dogmes. Et eux aussi vont être mis à mal, on va dire, hein, autant que les religions. C'est une religion. Alors, je continue toujours, concernant Pierre. On nous parle d'un événement depuis bien longtemps. Personnellement, j'ai l'impression que quelque chose d'imminent se prépare, mais cela fait déjà 3 ou 4 ans que j'ai cette sensation. As-tu la même sensation? On sent bien que le système arrive au bout, mais pour combien de temps? En effet, il chute, mais il est encore maintenu. As-tu des infos qui permettraient de mieux appréhender les échéances? Et là, on retombe dans la problématique du temps spatial. Et on est vraiment accroché à ce temps spatial. Et sachez que ce temps spatial est normal pour l'expérimentation que nous suivons. Mais vu de l'autre côté, c'est comme si on disait, voilà, vous arrivez au CP et automatiquement, quand vous arrivez au CP, vous avez les chaussettes blanches, la culotte courte, pour les demoiselles, une petite jupette, et puis c'est la tenue des colliers. C'est tout comme ça, quand on vous voit, on sait tout de suite à peu près où vous en êtes. Hein? Et puis après, ben, quand vous irez dans les autres classes et que vous quitterez peut-être le primaire, ben, vous serez peut-être plus obligé d'avoir la tenue d'écolier. Voilà. Donc, pour l'instant, on a une tenue d'écolier qui s'appelle le temps linéaire et tridimensionnel. Mais bon, faut passer maintenant à l'école suivante. Alors, une question de Gino qui est un peu d'humour. Il est raisonnable de penser qu'après l'événement, il subsistera beaucoup plus de femmes que d'hommes, celles-ci étant plus dans les fréquences élevées que les hommes. Bon, je pense quand même qu'il ne faut pas rêver un haut harem, quoique. Alors, il est évident que il y aura probablement plus de dames que d'hommes, en termes vibratoires, hein, c'est évident. Mais je ne peux rien dire par rapport à la suite, parce qu'en fait, là, c'est absolument pas. Tout ce que je sais, c'est que par rapport à toutes les entités que nous connaissons et de la structure de ce qui se passe dans l'invisible, eh bien, en fait, il y a deux hommes. Enfin, il y a deux polarités masculines pour une femme, pour une polarité féminine. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu l'inverse de ce qu'on pourrait penser sur Terre. Hein. Donc, vous avez, bon, on va prendre, vous avez les 12 étoiles de Marie, et vous avez les 24 vieillards. Parce qu'à chaque étoile de Marie, vous voyez deux vieillards. Enfin bon, c'est des termes affectifs. Voilà. Et ceci, on va dire, est une règle importante. Dans la règle des 12 plus 1, eh bien, on pourrait penser qu'il y aurait 6 féminins, 6 masculins. Ben, c'est faux. Il y aura 8 masculins et 4 féminins. Vous voyez qu'il y a... Il y a des choses, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, j'ai pas vraiment posé la question pourquoi, mais la raison me semble beaucoup plus, on va dire, simple, puisque il y a une trinité. Et on le verra que cette trinité, bah, en fait, pour l'instant, dans le jeu de notre galaxie, cette trinité est basée sur deux éléments masculins pour un élément féminin. Alors, faudrait... alors, je vois, il y en a qui disent... nous serons androgynes. Alors, androgynes, ça veut dire qu'en tant qu'entité, nous avons effectivement les deux polarités. D'accord. Mais le fait, c'est qu'il y a toujours une polarité qui est, on va dire... C'est parce que ça, c'est l'esprit. Mais au niveau du corps, t'as pas les deux polarités. Hein, d'accord. Alors, après, tout dépend comment on discute et sur quelle dimension et sur quel plan, bien sûr. Mais sortons un tout petit peu du plan purement, on va dire, matérialiste. Alors, une question de Tara Green. Est-ce que la réduction de la population rentienne correspondra avec la réduction d'autres formes de vie dans la galaxie ? Non. Est-ce que... En France, les décès qui auront lieu surviendront par épidémie, switch-off ou autre. Bah écoute, là on le verra, c'est le futur qui nous dira, je suis pas un devin, je m'appelle pas Nostradamus, mais une chose est claire, c'est que partiront ceux qui devront partir. Après, la méthode, les moyens et tout, ça c'est pas de mon ressort, et j'avouerai que je veux même pas le savoir, je m'en fous. Une question de Romain. Au sujet des 3 milliards qui vont mourir d'un coup, comment ceux qui sont sensibles vont pouvoir supporter le choc de ce départ et surtout la réaction émotionnelle des autres qui seront dans la peur et l'incompréhension à 100%? Déjà que les réactions avec l'histoire de Charlie Hebdo m'ont un peu plombé, alors qu'à la base ça ne m'émeut pas plus que ça, j'ose pas imaginer le reste. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement ça va faire drôle. Et vous avez dû entendre parler, il y a une certaine époque, du choc de l'humanité. Hein, eh bien, l'événement, le choc, c'est, on va dire, pour moi, la même chose. Donc, effectivement, il va y avoir un coup d'électrocution, on va dire. Enfin, j'irais... je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là. Vraiment... vous savez, quand quelqu'un il a une crise cardiaque, on les balance avec les électrodes un coup de... le machin là qui fait que ça lui fait gigoter, un électrochoc, voilà, eh bien, bah c'est ça. C'est-à-dire que l'humanité, pour la réveiller, va lui falloir lui foutre un putain d'électrochoc. Or, la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est qu'on met l'électrochoc où? C'est pas au niveau des pieds ou des mains ou de la tête, on met au niveau du cœur. Or, la France est le cœur. Donc, il va y avoir un électrochoc. Donc, préparez-vous, messieurs les Français vivant en France, hein, dans l'Hexagone, préparez-vous à vous prendre un électrochoc. Oui. Ben, c'est ça, je peux confirmer. Donc, cette histoire de Charlie Hebdo est en train de... Comment dire, rien n'est fait par hasard, dites-vous bien. Et donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais sachez que ce n'est que le début du commencement. C'est une petite étincelle. Et voyez combien les poudres répandent. Donc, on va arriver, ça va arriver à quelque chose. Et les énergies vont aller dans ce sens. Rappelez-vous que les énergies actuellement sont des accélérateurs. Donc, que vous alliez dans un sens ou dans l'autre, ça va accélérer. Alors, il est évident que si l'inconscient collectif ou la conscience collective aujourd'hui vont à la vengeance, à ceci ou à cela, vous imaginez que forcément ceux qui vont essayer de rester neutres dans l'affaire vont quand même avoir des difficultés puisque nous sommes tous branchés à cette grille cristalline. Donc, nous sommes tous branchés à cette conscience collective de l'humanité. Donc, si ça flambe quelque part, ça va flamber forcément encore plus fort, puisque, comme dirait l'autre, il y a du vent. Donc, ça va brûler très vite et très fort. Oui. Alors, une question d'Hippocampe. S'il y a plusieurs départs, que devient l'esprit cristallin des gardiens des crânes si le gardien bascule dans un autre plan? Comment cela se passera-t-il pour la suite? Eh ben, dites-vous bien que un esprit cristallin se sert du crâne comme un téléphone portable. Mais il n'est pas dans le téléphone, il est sur la grille cristalline. Donc, quand son gardien, on va dire, s'en ira, quittera ce plan de la matière, l'esprit cristallin, lui, il revient. La partie, d'une certaine manière, qu'il a mis dans le crâne de cristal revient sur la grille cristalline. Et il n'y a pas besoin que le gardien meure pour que l'esprit le fasse. C'est-à-dire que l'esprit cristallin qui voit que son gardien, enfin que quelqu'un l'a acheté, et que son gardien il est vraiment bouché plus qu'à l'émerine, et qu'il veut rien savoir, ou qu'il a des envies de pouvoir, etc., l'esprit cristallin repart sur la grille, et généralement, pour une raison relativement très simple, il se dit... On ne sait jamais avec les énergies qui vont venir, on ne sait jamais comment le gardien va réagir. Peut-être qu'il tournera sa veste et comprendra qu'être au service, ça ne veut pas dire être dans l'ego. Je vais donc laisser, on va dire, un concierge. Voilà. Donc tout esprit cristallin, même s'il repart sur la grille cristalline, restera toujours, on va dire, laissera toujours un mouchard dans le crâne de cristal en question, au cas où. Donc si un jour le gardien à ce moment-là vient véritablement à se réveiller et à pouvoir communiquer, à rentrer en communication avec le mouchard qu'il y a dans le crâne, à ce moment-là l'esprit cristallin reviendra. Dites-vous bien que l'incarnation d'un esprit cristallin à l'intérieur de la crâne de cristal est quelque chose qui se fait par étapes. J'ai déjà écrit tout ça à ce propos, donc ce n'est pas comme pour nous, je m'incarne un peu, ou enfin je m'incarne totalement, ou zéro, non. Dites-vous bien que quand vous êtes né, déjà votre esprit, votre étincelle d'esprit, bien sûr s'est incarné, mais il a fallu un certain temps pour que vous preniez conscience de tout cela. Il vous a fallu une période d'apprentissage. Eh bien là, c'est la même chose dans la venue d'un esprit cristallin au niveau d'un crâne de cristal, c'est que il y a des étapes. Et ces étapes, il va pas se mettre en, on va dire, en activation 5, si déjà vous n'êtes pas foutu d'être en activation 1. Donc quand vous serez en activation 1, là il va déjà faire quelque chose. Activation 1, ça veut dire que vous êtes déjà capable de correspondre avec lui par des oui et des non. Mais tant que c'est pas le cas, il est même pas en activation, hein, il est, on va dire, un petit mouchard dans le crâne, voilà, c'est tout, petite loupiote, juste pour dire qu'il y a quelque chose, mais sans plus. Et ensuite, si effectivement vous arrivez à communiquer avec la petite loupiote, eh bien, il va débarquer en niveau 1. Et puis, ben, si arrivé à un moment, on pouvait encore aller plus loin, ben, il s'installera en niveau 2. Et puis après, en niveau 3. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le support originel, eh bien, n'est plus assez grand, parce que c'est comme un disque dur, hein, ou une clé USB. C'est-à-dire qu'au départ, ben, vous dites, tiens, je me mets dans un petit crâne, voilà. Le petit crâne, il peut faire 50 grammes, comme il peut en faire 20, comme il peut faire 1 kilo. Hein. Et puis, à fur et à mesure que vous passerez d'étape en étape, eh bien, il dira, oui, bon, là, ta clé USB d'un méga, c'est bien, mais moi, il m'en faut 8 ans. Donc, ça veut dire qu'il faudra un crâne plus gros. Et puis après, il dira, oui, c'est bien, 8 gigas, mais maintenant, c'est un peu... il m'en faudrait 16 voire 32 là, s'il te plaît. Parce que bah, plus je monte les étapes avec toi en termes d'activation, et plus forcément je suis obligé de réintégrer une quantité de mémoire et d'informations qui sont directement à ta portée. Donc voilà pourquoi on est obligé, quand on commence avec des esprits cristallins, à acheter des crânes de plus en plus gros, pour arriver après à un stade suffisamment gros par rapport à votre esprit où vous en êtes. Donc il n'y a pas de poids qui sont définis, mais comprenez que aller en activation 5 avec un crâne qui fait 50 grammes, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Voilà. Donc pour parler de cela, bien quand on parlera après des activations des 144 plus 1, eh bien vous imaginez bien que dans le premier cercle seront mis ceux qui sont bien sûr en activation 5, c'est-à-dire en ligne 1, mais qui auront une case mémoire la plus importante. Voilà, c'est tout bête. Donc c'est pas basé sur la personne, ça sera basé sur les capacités, on va dire, physiques des crânes. Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs qualités de quartz, hein, de cristal de roche. Donc il y en a qui peuvent peser 10 kilos, mais qui n'auront même pas la puissance de certains qui font 5 kilos. Tout est une histoire en fait de silice pur et aussi de type de cristal. Hein. C'est-à-dire qu'il y a certains types de cristal sur cette planète qui sont, on va dire, quand ils ont été fabriqués, si on peut dire, je parle pas des crânes, mais du quartz, enfin du cristal de roche lui-même, eh bien, qui étaient dans des niveaux vibratoires qui permettaient un assemblage, on va dire, de meilleure qualité. Donc avec moins d'impuretés. Voilà. Donc il y a plein d'éléments, hein. Je ne vais pas vous faire un cours sur les crânes de cristal, mais j'ai déjà écrit beaucoup à ce niveau-là. Hein. Mais sachez que un esprit cristallin peut quitter, comme dirait l'autre, peut quitter le crâne de cristal et aller se remettre dans un autre ailleurs, parce que ben, celui qui a acquis ce crâne de cristal est complètement bouché à l'oreille ou veut tout simplement avoir du pouvoir pour du pouvoir. Et donc là, dans ce cas-là, il dégage assez vite, hein, il reste pas, mais ils vont laisser des petits mouchards. Donc ça vous donnera toujours l'impression qu'il y a quelqu'un, mais en fait, ça sera juste une loupiote, quoi. Une question de Mick. J'ai une question qui me turlupine depuis pas mal de temps, je ne sais pas si elle est appropriée et si tu en as déjà parlé, quand tu dis à qui rapporte la manipulation, à qui profitent les litres, les hectolitres ou plus de sang des collègues dans les villes et villages. Qui s'abreuve? Qui faut-il nourrir? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a... Alors attends, j'ai pas fini la question. Pour avoir vécu longtemps outre-mer, l'eau de coco, dans certains cas, peut remplacer les transfusions. C'est sûr que ça n'a pas le goût du sang. Ne me dis pas qu'ils vont jusque-là. Alors, je veux pas jouer... à la Dracula, mais il faut savoir que dans le sang humain, c'est d'une certaine manière le porteur de l'information de ce qu'on va appeler l'âme. Et donc, collecter du sang humain, c'est collecter en fait une partie d'un individu. Donc c'est pour cela que tout marcheur sur le chemin, il y en a qui vont dire « oui, mais moi je donne mon sang parce qu'il y a des gens à sauver, tout, etc. » Il ne comprend pas. C'est qu'il donne une partie de lui-même à l'autre, c'est-à-dire qu'une partie vitale de lui est donnée à l'autre. Et quand on dit une partie vitale, c'est, vous savez, que chaque être humain a une quantité d'énergie, on va dire, un petit peu comme une bougie, a une quantité d'énergie qui va lui donner, bah, on va dire, une certaine espérance de vie. Voilà. Alors, il peut brûler, bien sûr, la bougie par les deux bouts, après, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais la quantité est limitée, et c'est normal. Rien n'est infini dans l'univers, parce que même l'univers n'est pas infini en lui-même. Alors, contrairement à ce que tous les gens pourraient penser. Alors, le truc, à chaque fois que vous donnez de votre sang, que vous perdez de votre sang, eh bien, vous perdez, en fait, c'est la bougie se consume. Voilà. Alors, vous pouvez dire, ouais, je donne mon sang pour sauver les autres, et pour ci et pour ça, d'accord. Mais sachez qu'en même temps, vous diminuez votre espérance de vie. C'est déjà une première chose. La deuxième, c'est que les informations qui sont contenues à l'intérieur sont des informations émotionnelles. C'est-à-dire que quand votre sang est réutilisé pour quelqu'un d'autre, vous donnez une partie de votre corps émotionnel à l'autre. Donc imaginez qu'à ce niveau-là, l'autre va avoir un souci. Parce qu'il va se retrouver avec des émotions qui ne lui appartiennent pas. Voilà. Alors après, quand vous donnez carrément un don d'organes, là c'est encore pire. C'est-à-dire que là, grosso modo, c'est une partie de votre vibration qui est donnée. Et donc, tous les gens qui ont été transplantés, par exemple, cardiaquement parlant, savent très bien qu'ils ont une grande dévotion par rapport au donneur. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils sentent qu'ils sont le donneur. Qu'ils sont plus, franchement, eux-mêmes. Donc derrière tout ce qui est dit pour aider son prochain, enfin l'espèce de compassion de base qui dit mais oui mais si tu viens donner ton sang t'auras le droit quand même au sandwich. Bon si t'as la dalle et t'as pas bouffé pendant 3 jours tu peux le faire. Mais regardez combien est devenu une marchandise l'être humain. Aujourd'hui vous pouvez vous procurer n'importe quel organe en passant un peu sur internet. Vous pouvez vous procurer tout ce que vous voulez parce que les gens sont prêts à donner un rein pour avoir du pognon parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, etc. Et bien sûr, quels sont les gens qui font ça? Ce sont surtout tous les gens qui sont dans les pays défavorisés parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils disent de toute façon, si je donne pas mon rein, là je vais crever demain. Donc je vais donner mon rein, puis après je donnerai autre chose, puis allez, autre chose. Tant que j'arrive quand même encore à respirer. Et bien sûr, il y a des gens qui vont effectivement, on va dire, bénéficier de tout ça. Alors, ces gens peuvent des fois avoir l'apparence humaine, mais ils ne sont pas forcément des humains. Et donc, là, c'est aussi un autre sujet qui n'est pas toujours facile à aborder, c'est que quand vous êtes suffisamment sensible, vous pouvez sentir quand quelqu'un est un vampire. Pas avec les dents à la Dracula et vous sucez, mais simplement, le simple fait qu'il soit dans votre rang, vous allez sentir qu'il vous suce littéralement. Ce n'est même pas dire voilà ouais bon il a un peu un manque d'énergie. Non, c'est du suçage organisé. Et donc je connais certaines personnes qui sont des vampires. C'est-à-dire que vraiment ils ne peuvent pas vivre s'ils ne sont pas dans la présence d'êtres vivants. Alors quand ils peuvent pas avoir des humains sous la main, ils ont des animaux et ils sucent les animaux. Alors un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne comme ça. Elle avait des petites biquettes, biquettes, moutons. Mais les biquettes et les moutons ne duraient pas longtemps. Ils vivaient pas longtemps, les biquettes et les moutons. Alors, elle m'avait emmené dans son champ, et elle m'a dit, bah tiens, voilà, les croûtes en pain, faut leur donner, elles sont gentilles, elles sont mignons, je les aime beaucoup. C'est bien, puis moi je trouvais ça banal, c'est comme si... il fallait être en extase devant la biquette à qui tu donnais un crouton. J'ai trouvé ça un peu décalé. Puis bon, je dis ok, elle aime ses biquettes, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que j'ai réalisé beaucoup plus tard que s'il n'y avait pas ses biquettes, cette personne serait déjà morte depuis longtemps. Donc, ça ne rend pas compte. C'est le cas. Donc, je connais des personnes qui sont très intéressées de m'inviter pour que je cause avec eux, tati, tata. Alors, je leur tape dessus, je leur dis des trucs quand je dis je leur tape dessus. Je leur dis des choses qui, théoriquement, devraient vexer, devraient les foutre en boule et dire « Bon, sors d'ici, t'as rien à foutre chez moi. » Non, ils encaissent tout. Et l'expérience m'a montré que s'ils encaissent tout, c'est qu'ils n'ont rien à battre de ce que tu racontes. Alors, ils vont accepter tout ce que tu dis, tout ça, parce que pendant ce temps-là, ils ont branché la suceuse et ils sont en train de te sucer. Et comme dirait l'autre, maintenant, bon, il y a certaines personnes que j'ai, je sais quoi, hein, maintenant, là, je peux vous dire qu'ils peuvent lancer toutes les invitations qu'ils veulent, j'y mettrai pas les pieds chez eux, quoi. Parce que franchement, c'est incroyable.